Alors les murs ne leur suffisent plus, voilà qu'ils écrivent 01 dans le ciel maintenant.
Et si on faisait l'an 08?
Moi je crois que c'est un truc publicitaire, une marque dentifrice ou blessive.
Non, non, ça m'étonnerait, on sait trop ce que c'est maintenant pour que ça change. 01, c'est 01.
Mr. President.
40 ans après mai 68, un an après la victoire électorale de Sarkozy, deux anniversaires que la grenouille place sous le signe de la résistance.
Happy birthday, Mr. President.
L'an 08, c'est du 13 au 20 mai sur la grenouille, tous les jours à 18h et tout au long de la journée de façon impromptue.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée.
Charles Jacquier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la collection Mémoire sociale aux éditions Agone à Marseille et vous préparez d'éditer dans cette collection un ouvrage consacré à la grève générale dont je crois l'auteur est Miguel Chueca. D'un point de vue historique, peut-être pour commencer cette réflexion autour de la grève générale, quand voit-on apparaître l'idée d'une grève générale et peut-être selon quelle modalité, peut-être probablement plus dans la pratique des travailleurs que dans un aspect théorique.
Sur le livre, une précision, ce livre qui sera le prochain titre de la collection Mémoire sociale est un recueil de textes préparés donc par Miguel Chueca. De textes de la période 1895-1906 de militants syndicaux ou de théoriciens du syndicalisme qu'on appelle quelquefois syndicalisme révolutionnaire ou syndicalisme d'action directe et dont Miguel rappelle qu'il était qualifié à l'époque de syndicalisme grève généraliste. Donc l'idée de la grève générale était vraiment centrale et omniprésente. Et le titre de ce recueil, apparaître, donc, s'appellera « Déposséder les possédants ». Pour revenir sur les origines, je crois qu'il faut dire quelques mots sur le mouvement ouvrier des années 1890-1890 qui voit naître dans son sein et de la part de militants anarchistes et de militants syndicaux cette idée de grève générale. Il faut revenir sur le contexte dans lequel il va se développer. Ce contexte, il me semble avant tout marqué par ce que Benoît Malon, dans un livre qu'il écrit quelques temps après la fin de la Commune de Paris, appelle la troisième défaite du prolétariat français. Donc ce prolétariat français du XIXe siècle est vraiment tout à fait marqué par la répression des différentes insurrections qui ont marqué son histoire, enfin sa jeune histoire. Donc en premier lieu, c'est la répression des insurrections des canuts lyonnais de 1831 et 1834. La deuxième défaite, c'est celle des journées de juin 48 au moment de l'instauration de la Deuxième République. Et enfin, c'est évidemment la répression de la commune de Paris qui va provoquer au sens propre une saignée à blanc de ce mouvement ouvrier, de ce mouvement révolutionnaire. Donc, à partir de ces années-là, un mouvement syndical et politique ouvrier se reconstitue tant bien que mal en différentes tendances qui seraient trop longues à énumérer, trop longues à expliquer. Mais il se reconstitue avec vraiment l'idée qu'il faut éviter ce type de défaite absolument cruelle et absolument dramatique. Et donc, par ce fait-là, un certain nombre de gens vont commencer à populariser une idée qui va être celle de la grève générale. Donc ils vont la populariser contre l'idée d'une insurrection minoritaire se terminant par une répression tragique, puisque jusqu'alors c'est en gros Auguste Blanqui qui est un peu le théoricien des insurrections, quoi. D'autre part, un autre courant qui est en train de se constituer à la même époque, dans ces années-là, autour du Parti ouvrier français de Jules Guesde, et qui est la traduction française du mouvement social-démocrate international, donc de celui de la deuxième, de ce qu'on va appeler la deuxième internationale dominée par le Parti social-démocrate allemand, dont l'optique est de réaliser le socialisme par la conquête légale du pouvoir et donc par les élections, par la présentation de candidats aux élections, devons amener une majorité de députés au pouvoir, et que c'est ça qui constituait la clé du changement social. Ces gens-là disent non, nous pas du tout, c'est pas par ce biais-là, c'est ni par l'insurrection de type blanquiste, ni par la conquête légale du pouvoir que l'émancipation sociale pourra advenir, c'est en posant comme base fondamentale de nos idées, de notre pratique, la grève générale.
Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère, la queue ses poings nus. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution.
Pourtant, cette grève générale, inventée par les ouvriers eux-mêmes comme fondement d'un mouvement ouvrier, qui se définit donc contre la social-démocratie naissante et contre le processus révolutionnaire extrémiste, typiquement celui de Blanqui, va connaître de grandes difficultés au début du XXe siècle et au fond, un peu paradoxalement, victime de la montée du communisme marxiste.
Enfin, les choses sont peut-être un petit peu
plus... Est-ce qu'on peut y voir s'y opposer là un mouvement spontané, ouvrier spontané, et un mouvement qui est quand même un mouvement de théoriciens, un mouvement bolchevique?
Les causes de l'échec du mouvement syndicaliste révolutionnaire des années 1900, en gros 1905-1910, sont un petit peu complexes, et ça serait un petit peu difficile de les aborder ici. Je pense que, enfin, une des premières raisons va être, d'une part, la répression des différents gouvernements, notamment de Clemenceau à partir de 1908, qui va vraiment porter des coups extrêmement durs à ce mouvement-là, alors qu'il y a par ailleurs une montée extrêmement forte des luttes sociales, mais qui va buter sur cette répression et donc aboutir à un échec. Mais ça va être surtout l'échec devant la guerre de 1914, qui va laisser le mouvement ouvrier absolument exsangue et désorienté.
L'échec, c'est-à-dire que le pacifisme, qui était un élément central de ce mouvement, eh bien, n'a pas été suffisamment fort pour empêcher la guerre de se produire.
C'est ça, ce mouvement échoue 4-5 ans avant le déclenchement de la guerre. Mais il avait eu le mérite auparavant de comprendre vraiment que les contradictions impérialistes allaient peser extrêmement lourd sur le devenir de l'Europe, et donc avait pris vraiment une conscience très très forte de la nécessité de s'opposer à la fois au militarisme et à cette montée en rivalité des impérialismes. Et donc il y a toute une réflexion qui se développe chez ces gens-là autour de l'antimilitarisme. Bon, tout ça malheureusement ne va pas aboutir, et on ne peut pas en faire porter exclusivement la responsabilité sur le mouvement, sur ce mouvement syndical, puisque c'est l'ensemble du mouvement ouvrier, socialiste, donc social-démocrate, anarchiste, etc. C'est l'ensemble du mouvement ouvrier qui échoue, c'est pas simplement ce mouvement syndical. Hein. Mais ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, à partir de 1917, ce que certains contemporains vont appeler la grande lueur à l'Est. Et donc l'espérance que les échecs du 19e siècle, comme les échecs ayant abouti à la guerre de 14, allaient être finalement absous ou effacés par la première révolution victorieuse dans un très grand pays, et ayant réussi à se débarrasser de l'absolutisme tsariste, etc. Et donc c'est ce mythe bolchévique, léniniste, etc., qui va amener, disons, les franges les plus radicales du mouvement ouvrier à passer un peu cette idée de grève générale par pertes et profits, et à se raccrocher à l'idée de la conquête du pouvoir d'État, selon différentes modalités toujours, mais en ayant totalement abandonné cette idée d'autonomie ouvrière qui avait été au centre... Autonomie ouvrière, grève générale, qui était au centre des idées du syndicalisme d'avant 14 ans. Et donc le mouvement syndical, notamment en France, va se retrouver durant tout l'entre-deux-guerres, absolument éloigné de ses idées d'avant 14 ans, et se retrouver finalement sous la coupe d'une fraction strictement réformiste, c'est-à-dire qui en gros va rattacher le mouvement ouvrier à l'État bourgeois et aux institutions existantes, qui est symbolisé à l'époque par Léon Jouot, hein, qui sera le premier président du Bureau international du travail et permanent syndical, quasiment secrétaire général de la CGT, quasiment à vie, quoi. D'une part, et d'autre part, ce qui est la CGTU, donc à partir de la scission de la CGT qui suit la guerre de 14, qui va être très rapidement dominé exclusivement par le courant communiste, et donc va subordonner totalement la politique syndicale, aussi bien stratégique que tactique, aux consignes du parti. Et évidemment, dans ce cadre-là, les idées, aussi bien les idées d'indépendance que d'autonomie, que de grève générale, sont passées totalement à la trappe. Mais curieusement, ce qui est assez finalement réconfortant de constater, c'est que cette idée de grève générale va ressurgir une première fois quasiment spontanément dans la pratique des travailleurs eux-mêmes au moment des grèves de mai et juin 1936.
Les années 30, effectivement, dans le contexte globalement d'une social-démocratie que vous avez évoquée tout à l'heure avec le guélisme, là avec le Front populaire, on le voit arriver au pouvoir de manière un peu inopinée, un peu inattendue.
Cette social-démocratie...
Pourtant, les années 20, on a vu arriver quand même un certain nombre de vagues... qui laissait à penser qu'un mouvement social allait se produire, un mouvement social d'ampleur.
Les mouvements sociaux que vous venez d'évoquer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ne dépassent pas les années 1921-1923. Quoi, hein.
C'est-à-dire immédiate après Première Guerre mondiale.
C'est-à-dire vraiment les années qui suivent la Première Guerre mondiale et qui se terminent internationalement absolument partout. Par des défaites du mouvement ouvrier, dont certaines, notamment en Allemagne, seront extrêmement lourdes de conséquences, puisqu'on peut dire que le nazisme est un produit pur et simple de l'échec de la révolution de novembre 1918.
De même en Italie.
De même en Italie, puisque c'est ensuite la victoire de Mussolini et du fascisme. Et donc il y a une grande période finalement de contre-révolution et de recul du mouvement ouvrier qui va avoir lieu internationalement, avec une exception, deux exceptions au niveau européen. Ça sera évidemment la France des grèves de mai-juin 1936 et du gouvernement du Front populaire, d'une part, et d'autre part la révolution espagnole de 1936. Mais ces deux mouvements-là, là aussi, vont connaître un échec jusqu'à la guerre. L'idée même d'un syndicalisme autonome prenant la grève générale va totalement s'effacer dans ces années-là, y compris dans les années qui suivent la libération de la France.
Écoutez, ça y est, ça change maintenant, nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant, des voitures se rembrouillent. Aïe la vache, pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées.
Je veux quitter la terre. Découvrir d'autres sphères, partir dans l'infini, ouvrir les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes.
Après 1936 et le Front populaire, un deuxième moment où cette idée de grève générale réapparaît de manière très inopinée, c'est bien entendu 1968, 13 mai 1968, grève générale.
Ce qu'il faut dire, c'est que si l'idée de la grève générale s'est estompée durant plusieurs décennies, il n'en reste pas moins qu'il y a toujours une activité autonome et des mouvements de grève qui existent en France, et qu'à chaque fois, ce qu'on est obligé de constater, c'est que ces mouvements de grève commencent en dehors des stricts appareils syndicaux. C'est-à-dire que ça peut venir de structures syndicales de base, ou de certaines fédérations qui sont un peu plus radicales que d'autres, ou un peu plus en pointe dans le combat social. Mais ça ne vient jamais vraiment de la direction des confédérations ouvrières. Quand on arrive dans les années 60, ce qu'on constate aujourd'hui, si on regarde les choses avec un minimum d'attention et d'objectivité, c'est que les grèves de mai-juin 1968 n'éclatent pas du tout dans un climat social serein, puisqu'on constate dans les mois qui précèdent un certain nombre de grèves ou de conflits extrêmement significatifs, qu'on peut, avec un regard rétrospectif, observer comme finalement les prémices du grand mouvement gréviste de 1968. Deux exemples, une grève extrêmement forte quelques mois avant, fin 67, à Caen, qui va amener un journaliste du Monde de l'époque à commenter les événements en question, enfin avec affrontements violents entre grévistes et forces de l'ordre, une situation qui est presque insurrectionnelle quoi, au niveau de la ville, et donc un journaliste du Monde va commenter ça comme une jacquerie ouvrière quoi. C'est ensuite la grève à la Rodia Seta de Besançon qui va prendre aussi des formes extrêmement particulières et extrêmement novatrices, avec notamment tout un travail culturel autour de...
Medvedkin.
Voilà, absolument. Avec une organisation, une espèce de, finalement, une sorte d'université populaire qui sera ensuite réactivée pendant la grève de 1973 des LIP. Donc on voit que la situation sociale est extrêmement tendue, et qu'on n'est pas du tout dans la configuration qu'on nous répète ad nauseam.
La France s'emmerde.
Voilà, avec la fameuse phrase de Pierre-Vincent Ponté, qui était éditorialiste au Monde, disant que la France s'ennuyait et que donc les événements de 68 lui avaient permis de se distraire quelque peu. Donc une conflictualité extrêmement aiguë, extrêmement forte durant ces années. Et si on prend la chronologie des événements de mai 68, bon, on s'aperçoit, comme chacun sait, que tout commence finalement avec l'histoire du 22 mars à la faculté de Nanterre. Et qu'ensuite, finalement, les choses basculent le 10 mai, au moment de la nuit des barricades, qui va vraiment porter à un point extrêmement élevé le conflit avec les forces répressives de l'État, et que parallèlement, des grèves spontanées ont éclaté dans un certain nombre d'entreprises, la première étant Sud Aviation à Saint-Nazaire et Nantes. Donc à ce moment-là, les directions syndicales, donc qui sont à l'époque, enfin, les grandes confédérations sont la CGT, la CFDT, FO et la FEN, Fédération de l'éducation nationale, ont décidé d'une manifestation et d'un appel à la grève de 24 heures pour le 14 mai. Mais suite à la nuit des barricades, elles décident d'avancer ce mouvement d'une journée et de l'avancer au 13 mai. Mais contrairement à tout ce qu'on a dit précédemment sur la nécessité de l'autonomie, sur les idées de grève générale comme poussant à déposséder les possédants, etc., et comme moyen finalement, comme moyen et comme fin de l'émancipation sociale, les confédérations en 68 ne sont pas du tout dans cette optique-là, puisque c'est finalement à partir du 13 mai que la CGT et le PC se réintègrent dans le mouvement, en lui assignant des objectifs qui sont tout à fait social-démocrates et des revendications qui sont tout à fait acceptables par le pouvoir en place, et que donc le pouvoir en place va s'empresser d'accepter dans les semaines qui suivent, quoi.
On a pu même parler de trahison à ce moment-là. La personnalité de Segui a été très critiquée.
La personnalité en a été critiquée, mais je pense pas que c'était une question de, c'était en l'occurrence une question de personne. Et en même temps, je pense pas qu'on puisse non plus parler de trahison, dans la mesure où aussi bien la CGT que le PC avaient tout à fait affiché leurs objectifs. Pour le PC, c'était gouvernement d'union populaire. Donc rien à voir avec l'émancipation sociale et la grève générale d'avant 14.
Au moment de la Première Guerre mondiale, on a bien vu tout à l'heure à quel point l'idée pacifiste était importante et se trouvait tout à fait corrélée avec ces mouvements autonomes, ouvriers. Et en 68, on voit bien aussi comment le contexte global de la guerre du Vietnam et du refus de cette guerre coloniale ou néocoloniale influait aussi sur l'état d'esprit de ceux qui avaient envie d'initier ce mouvement révolutionnaire ou ce mouvement de grève générale en 1968. Dans les deux cas, une influence pacifiste.
L'influence pacifiste existe en 68, mais elle me semble beaucoup moins corrélée à la grève générale. Je pense que ce qui marque la génération en question, c'est, disons, d'abord, dans un premier temps, son opposition à la guerre d'Algérie. Mais là, on est beaucoup plus dans une tradition anticolonialiste, hein, que dans une tradition stricto sensu de syndicalisme révolutionnaire ou d'idée de grève générale. Évidemment, l'opposition à une guerre comme la guerre du Vietnam va beaucoup compter dans les mouvements des années 60. Mais ne s'inscrit pas dans les mêmes termes et dans les mêmes problématiques que l'antimilitarisme révolutionnaire, disons, du syndicalisme d'avant 14, quoi. Je pense que c'est quand même deux choses qui sont relativement différentes. Mais ce qui est extrêmement intéressant à noter pour les événements de 68, c'est que justement on va réapparaître cette idée de grève générale qui avait été oubliée pendant des décennies. Donc il y a un certain nombre de courants et de militants qui vont s'y intéresser de très près. C'est assez symptomatique, je crois, de noter par exemple que l'année suivante, en 1969, paraît un petit livre dans une collection universitaire en plus. Donc c'est les éditions Armand Collin. C'est un livre qui s'appelle « Le syndicalisme révolutionnaire ». Qui est un recueil de textes d'un monsieur qui s'appelle Henri Dubief et qui va marquer un certain nombre de militants de cette génération, parce que ça leur permet de revenir à ces textes-là, de revenir à ces idées-là qui avaient été longtemps mis sous le boisseau. Il y a un certain nombre de gens qui redécouvrent ça avec un très très grand bonheur, un très très grand intérêt. Et finalement, en se disant, il aurait été extrêmement utile et intéressant qu'on ait pu connaître ce type de texte avant les événements de 1968. Et donc, il y a un retour assez surprenant, mais réel, à ces idées autour de la grève générale après 68. Retour, il faut le dire aussi pour quand même nuancer un peu les choses, va être très atténué par l'aspect le plus spectaculaire qu'on va présenter de 68, c'est-à-dire en gros les gauchistes dits marxistes, léninistes, qui soient d'ailleurs trotskistes de différentes obédiences ou maoïstes. De différents courants, quoi.
C'est dans la rue, c'est dans la rue que ça se passe, quand il se passe quelque chose, quand il se passe quelque chose.
Quelque chose, c'est dans la rue que ça se passe, dans la rue d'à côté, c'est dans la rue que ça se passe.
Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait du coup voir réapparaître dans les prochaines années quelque chose qui puisse ressembler à un prémisse de nouvelle grève générale?
Ça, seul l'avenir nous le dira. Par contre, ce que je crois, on peut dire avec, enfin, il y a deux choses qu'on peut dire avec une relative certitude, c'est que d'une part, la leçon de mai 68 comme plus grande grève généralisée sauvage de l'histoire mondiale n'a absolument pas échappé aux dominants, et que les dix dominants, depuis ces années-là, avancent leur politique en fonction de ce paramètre-là.
Au fond, ce que vous dites, c'est que leur plus grande angoisse à ces dominants, enfin à ceux qui nous dominent aujourd'hui, ce serait qu'apparaisse une nouvelle grève générale et qu'ils font tout, au travers de leur politique, pour couper l'herbe sous le pied à cette éventualité.
Non, absolument. Je pense que toute leur stratégie pour faire avancer leurs propres intérêts est vraiment dominée par l'idée qu'il faut absolument éviter une nouvelle configuration similaire à ce qui s'est passé en 68. Ça se ressent. Si on analyse un petit peu les comportements, les déclarations, au jour le jour, les grands mouvements de grève qui ont eu lieu depuis. Bon, je pense par exemple aux grèves étudiantes et aux grèves des infirmières et des cheminots de l'hiver 85-86, aux grèves de 1995, au mouvement de 2003, même au dernier mouvement de l'automne dernier, de l'automne 2007, sur la réforme des régimes spéciaux, on voit que, à mon sens, les dominants ont vraiment intégré la leçon de 68 et font absolument tout pour qu'une telle configuration ne se reproduise pas.
On voit même apparaître l'idée d'encadrer très fortement le droit de grève dans un certain nombre de secteurs, de le conditionner, d'apporter un programme minimum. Est-ce que tout ça se situe dans la stratégie que vous évoquez ?
Bon, c'est tout à fait probable. Il y a une espèce de matraquage médiatique absolument permanent sur les usagers pris en otage, sur des projets de restrictions plus ou moins importants, plus ou moins hypocrites autour du droit de grève qui participent à leur manière à l'éviction de contre-feux préventifs visant à contrecarrer un mouvement de grève qui pourrait se généraliser. Même si dans la grève généralisée, ce que j'appelle la grève généralisée, on n'est pas encore dans la configuration de la grève générale, qui est là vraiment le principe et le moyen, enfin la fin et le moyen de l'émancipation. Une grève généralisée, c'est simplement une grève qui s'étend à un ensemble de professions. C'est pas encore la grève générale au sens où l'entendez donc les syndicalistes, le non syndicalistes dans 14 qu'on a évoqué. La deuxième chose. Pour revenir à l'actualité aussi, là non plus du point de vue des dominants et des dominés, c'est qu'il me semble avoir vu réapparaître justement dans les derniers mouvements sociaux, notamment pendant les grèves contre la réforme des retraites de 2003, comme un slogan dans les manifestations, l'idée de la grève générale, le slogan de la grève générale. Ce slogan, moi je l'interprète de deux manières. Je pense que d'une certaine manière, ça signifie qu'un certain nombre de gens qui se revendiquaient de ce slogan ont commencé à comprendre, ou sont en train de comprendre, qu'il y a vraiment nécessité de construire un rapport de force extrêmement élevé si on veut s'opposer efficacement à tous les projets de régression sociale maquillés en réformes indispensables auxquels on est confronté, d'une part. D'autre part, ça serait la conscience minimum sur la nécessité de la grève générale. Peut-être, qu'on pourrait aussi poser l'hypothèse que, au-delà de la simple construction d'un rapport de force à la hauteur des enjeux, il y a aussi la réapparition de cette idée de la grève générale comme, enfin, ou telle qu'elle a été conçue avant 14, à la fois comme moyen et comme fin de l'autonomie ouvrière et d'un socialisme véritable qui soit selon le mot d'ordre de la Première Internationale, l'émancipation des travailleurs étant l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et si je peux conclure sur un texte, d'un texte de Georges Sorel, qui est une préface à la brochure qui s'appelait « Avenir socialiste des syndicats ».
C'est au début du XXe siècle.
Voilà, qui est paru dans une revue qui s'appelait « Le mouvement socialiste » en novembre 1905. Et donc dans ce texte, Sorel disait la chose suivante. Tout d'abord, la grève générale exprime d'une manière infiniment claire que le temps des révolutions de politiciens est fini et qu'ainsi le prolétariat refuse de laisser se constituer de nouvelles hiérarchies. Cette formule ne sait rien des droits de l'homme, de la justice absolue, des constitutions politiques et des parlements. Elle en nie pas seulement le gouvernement de la bourgeoisie capitaliste, mais encore toute hiérarchie plus ou moins analogue à la hiérarchie bourgeoise. Les partisans de la grève générale entendent faire disparaître tout ce qui avait préoccupé les anciens libéraux. L'éloquence des tribuns, le maniement de l'opinion publique, les combinaisons de partis politiques. Ce serait le monde renversé. Mais le socialisme n'a-t-il pas affirmé qu'il entendait créer une société toute nouvelle ? Plus d'un écrivain socialiste, trop nourri des traditions de la bourgeoisie, ne parvient cependant point à comprendre une telle folie anarchiste. Il se demande ce qui pourrait succéder à la grève générale. Il n'y aurait de possibilité qu'une société organisée suivant le plan même de la production, c'est-à-dire la véritable société socialiste.
La grève générale contre la hiérarchie de l'État, la hiérarchie des appareils syndicaux ou politiques. Ça me rappelle un slogan de mai 68 qui disait « La hiérarchie, c'est comme les étagères, plus c'est haut et moins ça sert ». Merci Charles Jacquier, et je rappelle, en nous quittant, que très bientôt va sortir aux éditions Agone un ouvrage consacré à la grève générale des possédés, les possédants. C'est de Miguel Chueca et c'est dans la collection Mémoire sociale sous la direction de Charles Jacquier.